young, and your sweet madame makes it seem just like Belgium, just like Belgium.
Et on le sait, hein, Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le fait que le milieu de la haute technologie passe son temps à lobbyiser aux institutions européennes via Bruxelles. Justement, on en parle avec Drieu Godfridi, essayiste, économiste et fondateur de l'Institut Hayek, Lise.
Drieu Godfridi, bonjour.
Bonjour, Lisa.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Drieu, quand j'ai cherché, j'ai été étonnée moi-même, mais il y a aujourd'hui plus de lobbyistes tech que d'eurodéputés à Bruxelles. C'est dire si les multinationales du numérique sont largement concernées et elles dépensent des millions d'euros pour lobbyiser en Europe. Expliquez-nous pourquoi.
C'est-à-dire que l'Union européenne est aujourd'hui le centre, non pas créatif, malheureusement, mais régulatoire, je dirais. Les velléités régulatoires dans le monde, quand il s'agit de la tech, sont surtout le jeu dans le sein de l'Europe, et en particulier dans un aspect qui est celui de la liberté d'expression. Il y a toute une série de législations, on pense au DSA, mais il y en a d'autres, qui sont considérés par ces géants de la tech comme étant une menace pour la liberté d'expression. Or, la liberté d'expression est évidemment le modèle économique de ces opérateurs. Et c'est le motif par lequel ils sont effectivement amenés à s'intéresser de très près à ces législations qui sont adoptées en Europe. Mais avec des succès dont il faut tout de suite préciser, parce que vous avez parlé des montants, et vous avez raison, ces montants paraissent importants, ils sont dérisoires quand on regarde le turnover, le chiffre d'affaires des opérateurs en question, et l'efficacité est très limitée, parce que la plupart des législations qui sont adoptées en effet par l'Europe ne vont pas dans le sens, je dirais, de ces géants.
Et heureusement, parce qu'il faut que les législations aillent dans le sens du consommateur, pas dans le sel des géants de la tech. En tout cas, là-dessus, j'assume mon avis. Alors, Drieu Godfridi, on sait que c'est bien sûr Meta qui est souvent à la tête de cela et qui a donc un très imposant bâtiment à Bruxelles et qui dépense généralement une dizaine de millions d'euros chaque année pour tenter d'influencer ça. Qu'est-ce que, en fait, Meta veut exactement obtenir, Drieu Godfridi?
Mais Meta voudrait deux choses. La première, c'est éviter une aggravation de ce qu'il perçoit comme étant un fardeau législatif, et d'autre part une simplification du fardeau législatif existant. Donc il y a c'est le double axe selon lequel Meta et les autres agissent aujourd'hui auprès des institutions européennes. En réalité, ils s'appuient sur le gouvernement fédéral américain qui considère lui-même que une législation telle que le DSA, qui oblige à screener en permanence les tweets, pour ne prendre que le cas de X, et à prendre des mesures de rétorsion diverses et variées à l'égard des utilisateurs, ne sont pas compatibles avec le modèle décentralisé notamment des réseaux sociaux. Et donc c'est la raison pour laquelle ils essayent d'obtenir ce qu'ils perçoivent, disons eux, comme étant une rationalisation des législations existantes, et par ailleurs, comme je vous le disais à l'instant, éviter évidemment une aggravation. Attention que on doit bien percevoir que vous avez raison qu'il s'agit de protéger le consommateur, etc. Mais on est en passe de connaître une grande rupture, c'est-à-dire que si on va trop loin dans les velléités de régulation des géants de la tech, on risque finalement de les voir se déconnecter en tout ou partie de l'Europe, qui sur le plan économique ne représente plus l'importance qu'elle représentait il y a encore quelques années. Donc nous devons gérer ces questions avec beaucoup de prudence. La difficulté, c'est que ces géants de la tech, lorsqu'ils sont soumis à une législation qui est très exigeante, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, de facto, ils sont obligés de généraliser au monde entier ce type de législation. Et donc ce qui se fait en Europe leur sert finalement, et ça les ennuie, et ça ennuie aussi le gouvernement fédéral américain, leur sert de standard, je dirais, pour le monde entier. Et donc c'est la raison pour laquelle ils sont fort actifs en Europe, en effet.
Alors, loin de moi l'idée de vouloir juste vilipender les géants de la tech. Nos auditeurs le savent bien, je suis une grande fan et de technologie et même d'intelligence
Ah, nous le savons,
artificielle.
oui.
Mais néanmoins, ouais, néanmoins, il y a quelque chose qui m'inquiète là-dessus. C'est cette espèce de lien systématique entre ces géants de la tech qui ont, comme vous l'avez dit, Drieu, des moyens quasi illimités et une dépendance qui accentue leur pouvoir dans le monde politique. C'est ça, en fait, qui est tout de même inquiétant. Et je lisais un exemple qui révèle bien ce qui s'est passé. À force de lobbyiser, de temps en temps, ils arrivent quand même à quelque chose. Récemment, la Commission
Oui.
a simplement copier-coller un amendement qui avait été proposé par Microsoft et par le lobby Digital Europe. Donc, quand on en arrive là, et la Commission se contente de copier-coller un amendement des géants de la tech, oui, on peut légitimement s'inquiéter.
Oui, vous avez raison, mais le problème en réalité, Lise, est beaucoup plus profond que ce que vous décrivez. Il faut savoir que l'antipathie, le rejet en réalité de l'énergie nucléaire, pour prendre un autre exemple, est le fruit d'un lobbying acharné de toute une série d'ONG écologistes et notamment Greenpeace. Aujourd'hui, la Commission européenne reconnaît que cette sortie en grande partie en Europe du nucléaire a été une erreur stratégique majeure. Or là, il y a eu un lobbying extrêmement efficace et qui a duré des années de la part de toute une série d'ONG écologistes. Autre exemple, c'est l'achat littéralement de plusieurs parlementaires européens par des États, enfin, je dirais relativement agressifs, voire dans une certaine mesure sponsors du terrorisme islamiste tel que le Qatar. On a retrouvé des parlementaires européens en possession de sommes d'argent considérables. Ce sont en provenance supposée du Qatar. Ce sont des affaires qui sont encore à l'instruction. Mais donc, ça nous montre que l'infiltration des institutions européennes et du Parlement européen en particulier, par toute une série d'intérêts particuliers, est effectivement considérable. Donc là, ce dont vous parlez, c'est un problème réel, mais qui ne me semble. Parce que l'avantage, évidemment, des géants de la tech, c'est qu'ils sont légalistes quand ils sont américains. Et donc, ils ne recourent pas à n'importe quel moyen. Quand on parle d'États comme le Qatar, ou dans une certaine mesure, d'ONG écologistes vraiment, allez, fanatisés, tous les moyens sont bons pour parvenir à leurs objectifs. Le lobbying est quelque chose de consubstantiel à la démocratie. Quand on va à Washington, on croise autant, et en réalité bien davantage, de lobbyistes que de parlementaires, donc de membres du Congrès. C'est inévitable. Mais la façon de gérer cette réalité, c'est là que se situe, selon moi, la vraie faiblesse de l'Union européenne.
Là où je suis bien d'accord avec vous, Drieu, c'est que c'est sûr que c'est encore plus dangereux quand on parle de lobbyistes du Qatar ou de la Chine ou de la Russie, qui, eux, n'ont pas les mêmes valeurs démocratiques que les lobbyistes de la tech dont vous parlez. Mais ça ne justifie pas pour autant que la mécanique du lobbying à Bruxelles soit quasiment au même niveau que Washington. On est quand même sur quelque chose qui est choquant.
Mais c'est comme je vous le disais, l'explication par rapport aux géants de la tech, c'est que étant donné qu'ils sont mondiaux par définition, par construction, je dirais par essence, ontologiquement, ils sont le X est mondial, le Facebook c'est mondial. Lorsqu'ils doivent se plier à une législation, la législation la plus sévère l'emporte sur les autres, par définition, dans ce domaine. C'est toujours comme ça. Et donc pour eux, comme l'Europe est a priori plus sévères que ne le sont les États-Unis ou la plupart des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, etc. Ils doivent concentrer. Il y a une rationalité à concentrer leurs efforts, ce qui ne justifie pas tout. Et moi, je ne dis pas qu'ils ont raison dans ce qu'ils font. Mais si on doit se permettre un pronostic, je crois que les géants de la tech appuyés sur le gouvernement fédéral américain, ce sera difficile de leur résister dans la durée. Et donc, je crois qu'on devrait plutôt essayer de négocier avec ces géants, avec le gouvernement fédéral américain, un modus vivendi qui nous permette de rester simplement connectés au réseau mondial. Parce que si en plus de tout le reste, l'Europe devait être en toute ou partie déconnectée du réseau mondial, on se trouverait effectivement dans une situation difficile.
Moyenâgeuse. Oui, on n'a pas
Oui.
l'intention d'en arriver là. Bon, merci beaucoup, Drieu Godfridi, d'avoir été avec nous pour cette analyse ce matin. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes
À très
essayiste
bientôt,
et
Lise.
économiste. Votre dernier livre s'appelle L'or du Kremlin. Bonne journée à vous, à très vite.
À bientôt. Au revoir.
Sweet Madame makes it seem just like Belle.